Hardigan présente Une nuit au Cap de la Chèvre de François Cheng. Lu par Jean-Christophe Acquaviva. À Micheline Benoît, mon épouse, in memoriam. Première partie. Ayant appris mon goût pour la méditation dans l'isolement, une lectrice m'a généreusement proposé la demeure qu'elle possède dans le Finistère. J'ai accepté d'y faire un petit séjour. Dans sa deux chevaux étonnamment alerte sur cette distance bien longue, elle me conduit de Paris jusqu'à la presqu'île de Crozon, tout au bout de la Bretagne. Tournant alors au sud, elle prend la direction du Cap de la Chèvre. La voiture avance toujours, s'engage sur un chemin étroit, finit par s'arrêter devant une maison basse de pierre, perchée sur une sorte de promontoire relativement élevé. « Voici une des dernières habitations du Cap », me précise la conductrice. Autrement dit, on est ici en un point extrême de la Terre d'Occident. Au-delà, il n'y a plus rien, que l'océan. En effet, devant nous s'étendent à perte de vue des eaux écumantes, à l'odeur d'algues, baignées dans la lumière encore chaude d'un couchant qui approche. « Pour un isolement, c'en est un !» m'exclamai-je. Ma nouvelle amie sourit, sans ajouter un mot, tant le site est éloquent par lui-même. À l'intérieur de la maison, elle me donne toutes les indications pratiques. Après quoi, elle prend congé. Des amis l'attendent à Brest. Le temps que j'explore plus en détail le lieu, le crépuscule s'installe. D'ordinaire, entre chien et loup, c'est l'heure où la mélancolie s'empare de moi. Ici, dans cette petite maison rustique, tout emplie d'un accueil discret, c'est le sentiment de reconnaissance qui domine. La prévenance délicate, quasi maternelle de mon hôtesse me touche au plus haut point, alors que je la connais à peine. Ainsi, les écrits nés de ma nuit ont suscité une rencontre de cœur à cœur qui rompt, jusqu'à un certain degré, ma réclusion forcée face aux épreuves du grand âge. Dans la salle de séjour, sur un bureau, tout ce qui est nécessaire à l'écriture est prévu. Dans la salle de bain, tout ce qui est utile à la toilette est fourni. La cuisine, elle, respire le bon vivre. Le frigo est largement garni. Sur une table luisante d'usure, comme dans un tableau de Chardin, sont posées de la soupe de légumes, un gros pain et un fromage de chèvre, bien en accord avec le nom de l'endroit. Je m'assois et je dîne. Après quoi, sans plus attendre, je m'affale sur le lit pour me reposer de la fatigue du voyage. Vers minuit, les échos sonores des vagues frappant la paroi rocheuse m'arrachent à mon sommeil. Je me lève et j'entr'ouvre les volets. Se précipite sur moi une nuit sans fond au scintillement aveuglant. La pleine lune, là-haut, de tout son pouvoir attractif, est en train de soulever les marées. Elle les lance sans répit, à l'assaut de tout. Je reste là, seul, me laissant secouer par le grand ébranlement. Les fracas répétés des vagues, entrecoupés des cris stridents de quelques oiseaux de nuit, m'assourdissent. Dans l'épaisse solitude qui m'envahit, d'où peut m'arriver un signe de sympathie, un geste de secours? Contre toute logique, je ne me sens pas en sécurité. L'imagination s'emballe. Je me vois tel un pitoyable crapaud, ballotté, qui ne manquera pas d'être vite déchiqueté par les monstres déchaînés. Pourtant, au bout d'un moment, un changement s'opère en moi. La frayeur fait place à une sensation de bercement quasi enivrante. Je prends conscience de l'ampleur cosmique du phénomène auquel j'assiste. Le mouvement des marées, loin d'être celui d'un fauve en furie, obéit à une cadence bien définie. Il est fait de flux et de reflux, d'une poussée en avant suivie d'un retour.